Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Si vous connaissez une comédienne, peut-être aurez-vous envie de lui offrir des fleurs pour une représentation, pour une première. Enfin, alors, surtout, évitez de lui offrir des œillets. Traditionnellement, dans le milieu du théâtre, les œillets sont réputés porter malheur. Pourquoi ? Oh, tout simplement parce qu'au 19e siècle, les artistes étaient engagés pour une saison. À la fin de la saison, les comédiennes ne savaient pas trop si elles allaient être engagées pour une nouvelle saison ou remerciées. Et les directeurs de salle envoyaient aux comédiennes qui ne seraient pas reprises la saison suivante des œillets. Donc si vous offrez des œillets à une comédienne, ça veut dire qu'elle risque de ne plus avoir d'engagement. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une comédie d'un auteur italien qui s'appelle Carlo Goldoni, qui est né à Venise en 1707. Et Carlo Goldoni a une particularité, ça a été un des premiers à commencer à se libérer de la tradition italienne de la commedia dell'arte. Vous savez, ces représentations qui étaient jouées avec des masques traditionnels, etc. Et j'ai choisi de vous parler d'une pièce qui est un peu le prototype des comédies de Goldoni, La Locandiera. La Locandiera a été écrite en 1752. Le titre, c'est La Belle Aubergiste, le titre français. Donc l'action se passe, comme le titre l'indique, dans une auberge de Florence, non pas de Venise, mais de Florence. Et il y a, à la tête de cette auberge, une belle femme qui s'appelle Mirandolina. Elle a un problème, cette belle Mirandolina. Les hommes ne peuvent pas la voir sans tomber amoureux d'elle. Et il faut qu'elle manœuvre, en tant qu'aubergiste et en tant que femme, entre ses différents prétendants. Dans la pièce, il y en a trois hommes capables de faire la cour à l'aubergiste. Il y a le marquis de Forti Popoli, le comte d'Abba Piorita et le chevalier de Ripafrata. Et ils sont éventuellement rivaux acharnés. Je voudrais commencer par vous lire les premières scènes de la pièce qui sont un modèle d'exposition. On y voit se dessiner essentiellement les deux personnages du marquis et du comte. Le marquis, entre vous et moi, mon cher, il y a une certaine différence. Le comte, quand il s'agit de payer sa note, mon cher, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Le marquis, il se peut, mon cher, mais si notre thèse a des égards pour moi, c'est que je le mérite plus que vous. Pour quelle raison, s'il vous plaît ? Parce que, mon cher, moi, je suis le marquis de Forli Popoli. Eh bien, moi, mon cher, je suis le comte d'Abba Fiorita. Mais oui, vous êtes comte. Votre titre vous a coûté assez gros. J'ai acheté mon comté au moment même où vous vendiez votre marquisat. Oh ! Je vous en prie, mon cher. Moi, je suis quelqu'un, et l'on me doit le respect. Qui songe à vous manquer de respect, c'est vous-même qui, en le prenant de trop haut. Moi, je suis descendu ici parce que j'aime l'hôtesse. Tout le monde le sait, et j'exige que tout le monde respecte une jeune femme qui a l'honneur de me plaire. Oh, voici ma foi qui est plaisant. Voudriez-vous par hasard m'interdire d'aimer Mirandoline? Pourquoi donc croyez-vous que je sois à Florence? Pourquoi donc croyez-vous que je sois descendu dans cette auberge? Le marquis, peu importe. Vous n'arriverez à rien. Moi, je n'arriverai à rien, tandis que vous, tout juste. Je suis quelqu'un, moi. Et Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent et non de protection. L'argent. Oh, cela court les rues, l'argent. Moi, monsieur le marquis, je dépense un sequin par jour et je fais sans cesse des cadeaux à Mirandoline. Et moi, ce que je fais, je ne le dis pas. Vous ne le dites pas, mais vous vous arrangez pour que tout le monde le sache. On ne sait pas tout. Mais si, mon cher, on le sait. Les domestiques sont là pour le répéter. Et c'est ainsi que l'on sait que vous ne dépensez jamais plus de 3 pauvres petits paoli par jour. À propos de domestiques, ce valet, qui en ont Fabrice, ne me revient guère. Il me semble que notre hôtesse le regarde plutôt dans un bon œil. Le comte, oh, il se peut qu'elle songe à l'épouser. Ce ne serait pas maladroit de sa part. Il y a 6 mois que son père est mort, et une jeune femme seule à la tête d'une auberge risque souvent de se trouver dans des situations embarrassantes. Quant à moi, si elle se marie, je lui ai promis 300 écus. Si jamais elle se marie, elle aura ma protection en outre. Eh bien, je sais ce que je ferai en outre. Écoutez, mon cher, agissant en bonne amitié, donnant-lui chacun 300 écus. Moi, ce que je le fais en secret, je ne m'en vante pas, je suis ainsi, moi. Oh là, quelqu'un ! Ça n'a plus un sou, c'est plus orgueilleux que le doge. Entre Fabrice. Monsieur Désir, le marquis monsieur, quitte à enseigner les bonnes manières, que monsieur veuille bien me pardonner. Eh bien, Fabrice, comment va votre charmante patronne ? Fabrice, elle va bien, illustrissime. Elle est levée ? Oui, illustrissime. Ah. Pourquoi cela, illustrissime, monsieur ? À qui en as-tu avec ton illustrissime ? Ben, c'est le titre que je viens également de donner à monsieur le comte. Le marquis, entre lui et moi, il y a une certaine différence. Fabrice bat au comte. Il dit vrai, monsieur le comte. Je m'aperçois de la différence quand je fais ma caisse. Le marquis dit à ta patronne qu'elle vient de me trouver. J'ai à lui parler. Je vais le lui dire, Excellence. Je ne me suis pas trompé cette fois, Excellence. Cela peut aller. Il y a 3 mois que tu sais comment on doit m'appeler, mais tu es un impertinent. Je suis aux ordres de votre Excellence. Fabrice, veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi ? Tiens, Fabrice, te voilà un sequin. Merci, illustrissime. Excellence, au marquis. Ah, le marquis, moi, je ne jette pas mon argent par les fenêtres, comme certains fous. Va-t'en. Le ciel vous bénisse, illustrissime, monsieur le comte. Au marquis. Excellence. Celui-là, il serait grand temps qu'il apprît que lorsqu'on voyage, ce ne sont pas des titres qu'il faut pour se faire respecter, mais des gros sous. Le marquis au comte. Vous pensez peut-être m'écraser avec vos largesses, vous vous trompez. Mon rang, monsieur, vaut toutes vos pièces de monnaie. Je vous propose de prendre une première pause musicale en compagnie d'un compositeur vénitien, tout comme Goldoni était vénitien, je veux dire Antonio Vivaldi. Thank you. Nous avons laissé le marquis et le comte aux prises avec leur querelle, et maintenant il est temps de découvrir l'héroïne de la pièce, Mirandolina. Entre-temps, un des autres clients de l'auberge, le chevalier de Ripafrata, a expliqué au comte et au marquis que lui, les femmes, ce n'est pas son truc. Il n'aime pas les femmes parce qu'il se méfie d'elles et il a peur de se faire piéger. Et il le dit devant Mirandolina. Et voici la réaction de cette dernière. Ah, l'excellentissime monsieur le marquis de l'Ardèche serait prêt à m'épouser. Mais même s'il songeait sérieusement à m'épouser, il y aurait une petite difficulté. Moi, je ne voudrais pas de lui. J'aime trop le rôti pour pouvoir me contenter de son simple fumet. Du reste, si j'avais épousé tous ceux qui me l'ont demandé, j'aurais plus de mari que le grand Turc n'a de femme. C'est vrai. Autant il en vient ici, autant qu'il s'éprenne de moi et qu'il m'offre de m'épouser sur le champ. Et ce chevalier, aussi russe que non, se me traiterait avec un tel dédain. C'est bien le premier voyageur des champs de chez moi qui n'ait pas pris plaisir à commercer avec moi. Je ne dis pas que tous les hommes doivent s'amouracher de moi, mais être méprisé ainsi, c'est le mal remue terriblement la bile. Ah, il est l'ennemi des femmes. Il ne peut pas les voir, pauvre fou. Sans doute n'a-t-il pas encore rencontré celle qui saura y faire, mais il la rencontrera. Il la rencontrera et qui sait s'il ne l'a pas déjà rencontrée. Ah, c'est précisément avec un homme comme ça que je me pique au jeu. Ceux qui me courent après m'ennuient très vite. La noblesse, je n'en ai cure. Quant à l'argent, je l'estime, mais sans plus. Tout mon plaisir, c'est d'être servi, désiré, adoré. C'est l'amant faible. Et c'est celui de presque toutes les femmes. Me marier, je n'y pense même pas. Je n'ai besoin de personne, je vis honnêtement, je jouis de ma liberté. Je ne m'éprends jamais de personne, je me moque de ces caricatures d'amants en pamoison. Mais je veux employer tous les moyens pour vaincre, abattre et briser ces cœurs barbares et durs qui sont les ennemis de nous autres femmes, qui sommes ce que la belle nature, notre mère, a produit de meilleur au monde. Et voici donc Mirandolina qui met son plan en action pour séduire le chevalier. Et on se trouve toujours à l'auberge de Mirandolina. Le chevalier à Mirandolina. Lorsqu'on vous fait la cour, il me semble que vous savez feindre. Mirandolina, moi, feindre? Le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui prétendent se mourir d'amour pour moi si je n'aurais jamais donné la moindre marque d'affection ou si c'est jamais plaisanté avec eux de façon à leur permettre de croire justifier leurs prétentions. Certes, je ne les raboue point. Mon intérêt me l'interdit, mais il s'en faut de peu. Moi, les hommes à femmes, je ne peux pas les voir. De même que j'aborde les femmes qui courent après les hommes, voyez-vous? Je ne suis plus une enfant, je ne suis plus toute jeune. Je ne suis pas particulièrement belle, mais j'ai pourtant eu bon nombre d'occasions de me marier avantageusement. Eh bien, ces occasions, je n'ai jamais voulu en profiter, car j'estime trop ma liberté. Oh oui, la liberté est un grand trésor. Mirandolina, il y a le temps qu'il la perde sottement. Le chevalier, moi, je fais ce qu'il faut, je passe au large. Votre illustrissime seigneurie est-elle mariée? Ah! Le ciel m'en préserve. Les femmes, je n'en veux pas. Mirandolina, comme vous avez raison. Puissiez-vous toujours penser de la sorte, car les femmes, monsieur... Il suffit. Ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Le chevalier, vous êtes bien la première femme que j'entende parler ainsi. Je vais vous dire, nous autres aubergistes, voyons et entendons pas mal de choses, et en vérité, je suis plein d'indulgence pour les hommes qui ont de l'éloignement pour notre sexe. Le chevalier, à part, elle n'est vraiment pas comme les autres. Vous êtes pressé, je ne voudrais pas être importune. Mais non, vous me divertissez, vous m'amusez. Voyez, monsieur, c'est ainsi que je fais avec les autres messieurs. Je m'attarde un instant, je me montre gai, je dis quelques petites plaisanteries pour les divertir, ils se figurent tout de suite. Oh, vous me comprenez. Et les voilà qui se jettent à mes pieds. Tout cela, c'est parce que vous avez de gracieuses manières. Votre illustrissime seigneurie est trop bonne. Ils s'éprennent de vous. Quelle faiblesse, n'est-ce pas? S'éprendre aussi vite d'une femme. Le chevalier, c'est là une chose que je n'ai jamais pu comprendre. Et dire qu'on parle de la force, de la virilité masculine. Oh, faiblesse, misères humaines. Voilà qui est vraiment concernant, monsieur le chevalier, veuillez me donner votre main. Ah, merci, monsieur le chevalier. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Elle a vraiment quelque chose de singulier qui surprend. Mérandoline, l'homme des bois, m'a l'air de s'apprivoiser peu à peu. Alors, si vous allez à faire, je ne m'en voudrais de vous tenir davantage. Oui, monsieur, je vais m'occuper des choses de la maison. Si vous venez vous-même de temps en temps, je vous verrai volontiers. À la vérité, j'aurai pour règle de ne jamais mettre le pied dans la chambre des voyageurs, mais pour vous, je ferai peut-être une exception. Pour moi, pourquoi ? Parce que votre illustrissime seigneurie me plaît infiniment. Le chevalier, je vous plais, moi ? Oui, parce que vous n'êtes pas un homme à femme, et que vous n'êtes pas de ceux qui s'amourachent de la première venue. À part que le nez me tombe, s'il n'est pas fou de moi avant demain. Et disons que le chevalier, évidemment, comme Mirandoline l'avait prévu, est bien ferré. Au bout d'un moment, il va rendre les armes. Voici quelques scènes plus loin. Mirandoline, vous êtes une femme charmante. Oh, monsieur, vous vous moquez de moi. Écoutez, je m'en vais vous dire quelque chose de très vrai qui tourne à votre gloire. Je ne demande pas mieux que de l'entendre. Vous êtes la première femme en ce monde avec qui j'eus plaisir à causer. Oh, vous savez, monsieur le chevalier, je crois n'y avoir aucun mérite, non. Ce sont des choses qui arrivent parfois, des sympathies qui naissent entre des personnes qui n'ont rien en commun. Moi aussi, ce que j'éprouve pour vous, je ne l'ai éprouvé pour personne d'autre. J'ai bien peur que vous vouliez me faire perdre le repos. Voyons, monsieur le chevalier. Vous êtes un sage. Et ne pouvez agir qu'en sage, la faiblesse. Vous êtes étrangère. Je ressens en moi je ne sais quoi qui m'était jusqu'à présent inconnu, mais je ne veux pas perdre la tête pour un homme, et surtout pour un homme qui hait les femmes et qui peut-être désirait de m'éprouver pour ensuite mieux se moquer de moi, et c'est maintenant de me tenter par des propos inattendus. À part, il n'est pas loin de succomber. Monsieur le chevalier, vous ne voulez pas trinquer à la santé des bons amis ? Oui, à la santé des bons amis, et à celle de ceux qui s'aiment, en tout bien et tout honneur, en tout bien, tout honneur, en réalité, évidemment, tout bien, tout honneur, ça ne va pas durer longtemps. Je vous propose une deuxième pause musicale, toujours en compagnie de Vivaldi. Peut-être n'était pas utile de préciser, sans doute avez-vous deviné déjà, le chevalier va tomber fou, amoureux de Mirandoline, et pour ne pas déroger à ses principes, il choisit la solution qui lui semble la plus convenable, la fuite. Comme rappelait Napoléon, en amour, la meilleure tactique, c'est la fuite. Le comte et le marquis aussi se demandent un peu ce qu'ils font dans cette auberge, surtout que Mirandoline a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer à gérer l'auberge toute seule, et elle va écouter les conseils de son père, mort 6 mois auparavant. Elle va épouser le serviteur de l'auberge, Fabrice, qui est également fou amoureux d'elle. Elle annonce cela, et voici, en quelques lignes, la conclusion de la pièce, la Locandiera. La Locandiera s'adresse au public. Et vous, messieurs, faites votre profit de ce que vous venez de voir pour le plus grand bien et la sécurité de votre cœur. Et si jamais vous trouviez sur le point de succomber aux agaceries de mes pareils, rappelez-vous les tours et les ruses de la Locandiera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons nous séparer sur un dernier extrait d'un concerto d'Antonio Vivaldi.